Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs, auditeurs de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 23 d'aujourd'hui a pour titre « Silence, on ensevelit la liberté sous les mots et l'économie sous les impôts ». Dans l'actualité économique générale, je note que nous attendons depuis longtemps la mise en service complète du programme de satellite Galileo, plus performant que le vieux Global Positioning System GPS américain. Galileo était un programme français repris par l'Europe de Bruxelles. EADS Astrium, entre-temps devenu plus allemand que français, vient d'être remercié au profit du tout germanique avec OHB, qui va fabriquer les 14 premiers satellites du système européen de localisation. Les 8 à 18 suivants nécessaires ne sont pas encore attribués aux deux concurrents qui restent en lice, du moins officiellement. Voilà un contrat de 566 millions d'euros qui va droit au monopole allemand. Tant pis pour la France, une nouvelle fois pillée de ses idées. Dans l'actualité fiscale, Reuters nous enseignait le 7 janvier les réalités et notre futur d'esclaves. La destruction d'emplois va se poursuivre par dizaines et centaines de milliers sous la pression monstrueuse de l'endettement public, 84% du PIB en 2010, avant 88% en 2011 et 91% en 2013. Le solde négatif du budget de l'État va passer à 7% et le recul du produit des impôts est un symptôme terrible de ce qui se passe. Pourtant, cela se passait déjà en 360 sous Julien, empereur d'Occident. Plus l'État augmente les impôts, moins il en rentre dans la caisse. Trop d'impôts tue l'impôt. Il faut donc avoir le courage de faire comme Julien, diviser les impôts par deux, et, miracle, 2 ans après, il en reste plus qu'avant dans la caisse. Seulement voilà, nos gouvernements actuels sont des hauts fonctionnaires qui réagissent comme tous leurs prédécesseurs. Il n'y a donc pas de Julien en vue, qui luttera contre eux, puisque ce sont eux qui gouvernent et qui, pour plus de sûreté, l'ont qualifié d'apostat, pour mieux le voir rangé au placard de l'histoire. À la place d'un Frédéric de Hohenstaufen dont on pourrait rêver, on nous sert un Herman Van Rompuy qui ne rêve que de créer des taxes européennes, et en plus des taxes qui ne travaillent pas, mais qui entretiennent la nomenclature. Les collectivités locales taxent aussi à tour de bras. C'est maintenant une taxe d'habitation obligatoire pour les logements non habités qui est infligée aux propriétaires antisociaux qui se gardent pour eux leur logement disponible. On croit revivre le docteur Jivago en 1917 à Moscou. Dans mon conseil patrimonial du jour, je me rappelle du fameux jeu télévisé animé par Guy Lux, La roue tourne, et de son slogan, La roue tourne, la chance tourne, l'assurance tient. C'est que dans ces années-là, l'assurance avait encore pour but d'indemniser exceptionnellement, en cas de besoin, contre une prime annuelle. L'assurance était donc encore ce simple contrat financier par lequel une partie s'engage à payer un capital si un événement se produit, en contrepartie d'une annuité répétée payée par l'autre partie. Simple calcul financier à faire pour chacun des deux parties, chacune des deux parties, avant de signer. De nos jours, l'assurance est devenue officiellement une caisse chargée de racketter les gogos de force. Toutes les assurances deviennent obligatoires, même les plus loufoques. L'État républicain a besoin d'argent. Je viens de trouver, chez le Sénat de la République, laquelle sévit depuis 1871, une proposition de loi incroyable. Généraliser l'assurance récolte en la rendant obligatoire pour tous les agriculteurs. Elle est entre autres le jouet aspirant inventé par les sénateurs Jean-Michel Baylet, franc-maçon bien connu, Michel Charras, qui n'est donc pertinent qu'à la télévision, dans l'environnement. Jean-Pierre Chevènement, célèbre ministre de l'Éducation nationale, ayant généralisé le bac pour tous, et maire de Belfort, ayant fait construire une mosquée avec minaret dans l'enceinte de la fortification Vauban. En conséquence, limitez au minimum vos assurances qui ne remboursent jamais quand on en a besoin, comme nous le savons dans les Landes après le cyclone de février 2009, qui a coûté cher pour y survivre dans le froid durant 3 semaines. Devinez la réponse de mon assureur, vous n'aurez rien, inutile de faire un dossier, c'est une catastrophe naturelle. Pourtant, tous les contrats comportent la clause obligatoire que l'on paye de catastrophe naturelle. Moi, je comprends rien. Et vous? Mon histoire de la monnaie se poursuit avec son chapitre 23 d'aujourd'hui, rétrospective sur le métier de banque et l'art bancaire. La première page du premier cours de la première année de CAP Banque commençait encore ainsi dans les années 60-68. Nous sommes des commerçants. La banque est en effet depuis 3500 ans et le code d'Hammurapi un commerce, celui de l'argent, par défaut de la monnaie courante comme l'orge, puis officielle émise par la banque centrale de l'État, marchandise d'abord, puis en circulation fiduciaire ensuite. Comme tous les autres commerçants, l'esprit commerçant devait habiter tous les employés, gradés et cadres de banque, ce qui suppose l'amabilité jusqu'à l'obséquiosité, si nécessaire, bien que rare, pour retenir un gros client, et des efforts permanents pour rendre sa boutique attractive pour les chalands, notamment par des prix bas des services de banque, bourse, change et coffre-fort, offerts à la clientèle. Cela suppose aussi la liberté des gens de déposer ce qu'ils veulent bien, chez qui ils veulent bien, et donc la concurrence permanente entre banques d'une place donnée et la complémentarité dans le respect et l'indépendance totale mutuelle et avec aussi les autres partenaires, les agents de change, établissements financiers, caisses d'épargne et CCP. Le Code civil interdit toujours les ententes et a fortiori les cartels. La situation derrière les guichets était la suivante. Des employés payés 450 à 550 francs par mois devaient être vêtus de costumes, deux ou si possible trois pièces pour les hommes, et de robes ou tailleurs bien habillées pour les femmes lorsque leur emploi les mettait en contact avec ou seulement en vue de la clientèle. Un costume sur mesure, ou presque, revenait à 1 ou 2 mois de salaire. C'était la misère en faux col. Expression bien connue depuis le 19e siècle et que mon père connaissait bien avant moi dans les années 20 et 30, où son costume de travail était un habit noir à queue de pie, nœud papillon et gilet blanc sur chemise blanche à plastron, chapeau haut de forme, éventuellement chapeau claque. Sans cet habit, interdiction d'entrer à la Bourse de Paris. Aucune femme ne fut admise à y entrer jusqu'à un décret de VGE, en 1977. Cet habit coûtait à l'époque, dans les années 30, 1 an de son travail. Un ingénieur gagnait en 1965 5000 francs par mois. Un cadre de banque, directeur d'agence, 1200 francs par mois. Lorsque l'ingénieur venait retirer chaque semaine en espèces 500 francs, il retirait l'équivalent de la paye mensuelle brute du caissier qu'il servait. Cette misère en faux col créait bien des malentendus. La CGT faisait croire aux cheminots que la Bourse de Paris n'était fréquentée que par de gros capitalistes. La preuve, ils étaient tous en queue de pie. Cette misère en faux col s'expliquait par les tarifs extrêmement bas des services offerts par les banques et agents de change, comme par l'obligation ou l'habitude de stériliser en dépôt à la Banque de France de 30 à 50% des dépôts reçus. On est en 2010 à 2% seulement. Ceci en cas de crise de retrait massif. Par exemple, le service de caisse était entièrement gratuit. Dépôt, retrait, monnaie, remise de chèque, le service des titres facturait au maximum 0,10% sur tous les services boursiers. La commission d'endo sur les lettres de change pour encaissement en compte était de 0,40%. 0,40%. Les clients ne devaient acquitter que les timbres fiscaux, par exemple sur les versements d'espèces, 25 centimes de francs. Les agios d'escompte étaient très faibles et très lisibles dans un bordereau d'escompte que tout employé devait savoir calculer lui-même et devait effectivement établir au client s'il était titulaire du CAP, ce qui lui procurait 10 points personnels et une petite augmentation de son salaire brut de 450 à 500 francs par mois. Les comptes courants faisaient l'objet d'arrêtés de comptes courants, très lisibles, faisant apparaître dans le détail aussi l'ensemble des frais sur les soldes débiteurs en valeur et prorata temporis. Ces comptes courants devaient également pouvoir être arrêtés, calculés, facturés et débités à la main au compte du client sur son relevé, un petit carnet détenu par le client et qui lui était remis lors de l'ouverture du compte. Le relevé ainsi annoté manuellement par les employés avait pleine valeur juridique et engageait la banque devant les tribunaux. Aucune erreur n'était donc tolérée et une faute professionnelle était durement sanctionnée. Si elle était importante, l'employé était jeté dehors séance tenante, éventuellement à coup de pied au cul. Et c'est pas une image. Le passage à la caisse immédiat était garanti. C'est pourquoi le problème a été vite classé dans les années Mitterrand par l'abandon du relevé pour ne plus envoyer au client que des extraits. Toujours contestable par la banque, si une erreur lui était imputable, plus la limitation de cette contestation par le client à un mois de nos jours. Les banques règnent maintenant et les clients esclaves n'ont plus rien à dire. Les clients des banques étaient alors, dans les années 60, très peu nombreux et en général, l'usage de la banque se limitait aux services de dépôt courants. Bien peu de clients avaient des chéquiers que d'ailleurs ils étaient peu nombreux à réclamer et le directeur de l'agence avait tout pouvoir pour accepter ou non de remettre un chéquier au client qui ne pouvait en aucun cas discuter le fait. La banque était encore cette grande dame austère, très intimidante et dans laquelle tout le monde parlait bas comme à l'église, décrite dans les manuels de cours. Et encore de cette espèce en Suisse de nos jours. En Suisse, il reste très mal vu de parler haut, et même au restaurant. L'étude de crédit, très complète, presque toujours du type crédit personnel pour les personnes et du type commercial pour les entreprises, incluant ou non une ligne d'escompte toujours limitée et une facilité de caisse, c'est-à-dire un découvert à 8 jours, ou un crédit de campagne pour les entreprises lourdes, était menée par des employés titulaires de leur brevet professionnel qui incluait dans son programme une formation très poussée à tous les risques bancaires et aux besoins des clients. J'ai toujours dans ma bibliothèque le fameux « Risque du crédit bancaire » par Georges Petit Dutailly. Cette formation, qui ouvrait déjà la promotion au niveau cadre, classe 5 de la convention collective, était poussée au plus haut niveau supérieur avec des cours à l'ENA, au CNAM et au ministère des Finances, en sus de l'Institut supérieur de formation bancaire, soit ITB en 3 ans, soit CESB en 1 an. Pour les meilleurs, évidemment, appelés à devenir cadre supérieur, voire hors classe. C'est dire que jamais les clients arrivant au guichet n'avaient en face d'eux des employés incapables de ne rien faire par eux-mêmes et n'agissant que dans le cadre et avec l'assistance de l'ordinateur qui n'existait pas, comme de nos jours au XXIe siècle. Les employés au guichet savaient tout faire et leur gradé ou chef de service derrière n'avait que la responsabilité de la signature et n'était pas davantage compétent, sauf l'expérience en sus. Le centre de formation bancaire a repris son nom à partir de 1993, laissant celui d'Institut de formation bancaire au Luxembourg, après avoir abandonné les cours magistraux au profit des QCM. À Paris, les professeurs jugés de trop haut niveau, capables de mener des cours magistraux de 3h30 aisément, furent remerciés, dont moi-même, et remplacés par d'autres, moins compétents, reconvertis en animateurs pour des étudiants reconvertis eux-mêmes en apprenants. Le CFPB a depuis très vite perdu ses clients, les banques, se mirent à ignorer la formation professionnelle interbancaire commune et à ne plus former, entre guillemets, que des employés maison. La Société Générale fut la première à conditionner ainsi ses employés à dépendre de l'ordinateur. En ouvrant leur PC relié au réseau chaque matin, ils découvraient ce qu'ils devaient faire de leurs 10 doigts dans la journée. ce fut la recherche de l'incompétence des employés et la fin des autres encore compétents, licenciés ou reconvertis, voire mis en pré-retraite. Après la saignée de la mise à pied de 90% des cadres dans les années Mitterrand, l'économie et notamment les banques fut décapitée. On voit mieux pourquoi, j'espère, après tout ce que je vous apprends, confirme, indique ou rappelle. Au total, dans les années 60 et 70 encore, les banques étaient spécialisées. Il y avait les banques de dépôt, dites généralistes, qui faisaient profession habituelle de recevoir du public sous forme de dépôt ou autrement des fonds qu'elles employaient ouvertement pour leur propre compte en opération de crédit, d'escompte ou autre. Selon la définition légale même du métier, apprise par cœur au début du CAP. Il y avait aussi les banques spécialisées dans le crédit à long et moyen terme qui se finançaient par des capitaux empruntés à long terme sur le marché financier primaire et les banques dites d'affaires, généralement en commandite, simple SCS ou par action SCA. Les établissements financiers, souvent dits de portefeuille, c'est-à-dire holding en anglais, comme on dit aujourd'hui, avaient simplement pour but de diriger des groupes incluant des banques, des agents de change, des compagnies diverses, qu'elles soient industrielles, immobilières, commerciales. C'était le cas, par exemple, de la société en commandite simple Investissement Rothschild, par exemple, qui regroupait des compagnies comme Pierre et Vacances, Immobilier de Tourisme, Pénard Royal et Mines, la Banque Rothschild, l'Européenne de Banque, Diamant Valeur et compagnie, etc. Je fus l'un des sous-directeurs de cette société en commandite simple avec rang, titre et fonction en 1981. Dans l'ensemble, la vie financière des années 60 était claire. Les banques étaient sûres et les moyens de règlement francs, comme depuis le temps de Saint-Rémy ou de Clovis. La parole donnée ne pouvait être reprise ni par les clients ni par les cadres bancaires. Les Anglais disaient que seuls des non-gentlemen pouvaient tenter de reprendre leur parole et c'était toujours très shocking. Les comptes étaient sincères et véritables, attestés comme tels de la main du directeur général et les bilans des banques devaient obligatoirement être à jour et collés au dos des bons de caisse, par exemple, afin que le client sache dans quelle caisse véritable il plaçait ses sous. La confiance n'était pas donnée, elle était justifiée en permanence auprès des clients qui étaient donc respectés. Un client disposant d'un chéquier avait immédiatement la confiance de tout fournisseur auquel il réglait par chèque. Car tout le monde savait que les banques ne donnaient pas de chéquier à tout le monde. Il n'y avait besoin d'aucune réglementation particulière. La liberté équilibrait tout et tout le monde était à sa place. Dans les années 66-68, après la crise et le contrôle des changes drastiques de 1965, qui obligea les banques à délivrer des carnets de change même à des nourrissons pour augmenter l'emport de monnaie des parents en voyage, la liberté devint totale. Par exemple, nous pouvions ouvrir sans aucun contrôle des comptes en devises étrangères aux clients particuliers, lesquels pouvaient à tout moment les utiliser, soit en France, soit à l'étranger, pour des règlements entièrement libres. Les fameux comptes EFAC n'étaient plus nécessaires. Les chèques étaient libres, les lettres de change individuelles très répandues, les billets à ordre et les varantes commerciaux de même. Tout le monde savait se servir de ces instruments libres, pleinement et efficacement. Ou alors n'en demandait pas à la banque ou chez la papeterie. Les chèques étaient endossables. La banque devait vérifier leur régularité et la signature de son client. Ils pouvaient être déplacés librement par le titulaire, visé ou certifié pour provision. Les chèques dits de banque étaient des vrais, tiré par la banque du client sur son compte chez la Banque de France. C'était donc un beau chèque Banque de France, rouge, avec comme émetteur sa banque, rédigé en police de caractère gothique, que le client recevait, moyennant une toute petite commission, compensant juste l'escompte obligé de la banque pendant quelques jours en cas de nécessité de trésorerie. La compétence, la liberté. Voilà ce qui caractérisait la vie bancaire des années 60 et les banques pouvaient donc remplir leur rôle d'intermédiaire dans les échanges, de manière pleine et sûre. Par exemple, Le Crédit Lyonnais, dont j'ai pris l'exemple dernièrement, bien que nationalisé seulement par l'achat d'actions, se conduisait encore en entreprise commerciale libre et responsable de droit privé, avec un actionnaire étatique dans le conseil d'administration, c'était tout, toujours dirigé par le petit-fils du fondateur Henri Germain. Dès lors que Schlegel, revêtu de la légende du self-made man, parti de rien, garçon de course, puis, encore pire, ceux qui le suivirent, quand donc ils virèrent en le petit-fils d'Henri Germain de sa place parce qu'il refusait de verser à l'État des dividendes disproportionnés aux résultats, le Crédit Lyonnais, que l'État voulait piller, a commencé à dériver dès 1970, surtout quand même, faut le dire, sous Bloch Lenné. En 1978, un contrôleur général du Crédit Lyonnais de mes amis me confiait « Nous ne savons plus du tout où nous allons, on n'arrive plus à contrôler réellement ce qui se fait. » Dans les années 90, le Crédit Lyonnais fut officiellement déclaré en faillite et pompa plus de 156 milliards de francs lourds aux déposants et aux contribuables pour être renfloué, remis à neuf, en or, et arboré en 2010 le sigle LCL. Pourtant, presque personne ne réalisa ce qui se passait à ce moment-là. Le conditionnement du peuple est aujourd'hui quasi total. Voilà l'histoire, résumée évidemment, de la fin d'un monde, celui de la liberté, basé sur la compétence et encadré par le seul bon sens, soutenu juste ce qu'il fallait par quelques lois fondamentales. La fin de cette liberté a engendré la monstrueuse prolifération d'une législation-réglementation insupportable par tous ceux qui, comme moi, ont connu la vraie liberté, laquelle ne se tronçonne pas en morceaux baptisés « liberté » avec un S, sauf par ceux qui veulent la tuer, la liberté, les totalitaires de tout poil. Nous verrons dans le chapitre suivant une rétrospective de la seule année terrible 1968, événement d'importance géopolitique majeure, absolument capital pour le monde et pour l'Europe et pour la France, qui mit fin à la liberté ancestrale et ouvrit la voie à l'esclavage du peuple français. À dans une quinzaine. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.